Chers frères et sœurs, le mot foi, F-O-I, est un mot de notre vocabulaire chrétien, peut-être le mot le plus important après Dieu. Mais ayons bien conscience qu'avant d'entrer dans les dictionnaires de théologie, la foi était un mot de la vie courante. Que ce soit en hébreu avec le mot emouna, que ce soit en grec avec le mot pistis, la foi exprime la confiance, la solidité et par extension la véracité de quelque chose. Dans le domaine religieux, la foi exprime principalement la confiance entre l'homme et Dieu. Mais elle peut aussi exprimer la confiance entre une personne et une autre personne, comme c'est le cas de Tite, par exemple, envers la communauté de Corinthe. C'est la foi que j'aimerais examiner avec vous à partir de ce passage biblique qui n'est pas le passage que nous fréquentons le plus. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais regarder et examiner la foi à travers ces lunettes pour corriger peut-être un peu notre vision de la foi, ce que nous en disons. J'aimerais examiner ce qu'est la foi comme confiance, examiner ce que signifie le fait que la foi soit une confiance. Et pour commencer cet examen de la foi, j'aimerais m'interroger sur la relation qu'il y a entre la foi et le péché dont il est question dans ce passage biblique. L'auteur de ce passage explique, je cite, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Je présume que ce n'est pas le verset qui a été le plus simple à comprendre pour vous. Il n'est même pas tout à fait impossible que vous ne le compreniez toujours pas. Parce que ce verset contient des notions qui nous sont devenues assez étrangère. Soit parce que le péché ne nous pas trop ça, soit parce que la notion même de sacrifice nous est devenue étrangère. J'aimerais, pour éclairer un peu cette notion, vous dire simplement que dans le livre du Lévitique, où il est beaucoup question du sacrifice, le sacrifice est à comprendre comme une offrande. Sacrifier à Dieu, c'est offrir à Dieu. Et le sacrifice pour le péché dans le livre du Lévitique, c'est le repas que l'on offrait à Dieu pour rendre grâce de ce que Dieu avait pardonné notre péché. Soyons bien clairs sur la chronologie des faits. Le sacrifice pour le péché ne nous permet pas d'être pardonné du péché. Le sacrifice pour le péché atteste que Dieu a pardonné notre péché. C'est un repas de commensalité. C'est un repas pour sceller la réconciliation qui a déjà été jouée avant. Dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché, cela signifie qu'il n'est plus possible d'être pardonné de notre péché après avoir reçu la connaissance de la vérité. Pour une raison simple, c'est qu'en bonne logique, si nous connaissons la vérité, nous ne pouvons plus pécher. Si nous faisons confiance à la vérité, il n'y a plus de péché. Si nous avons foi dans la vérité, le péché n'a plus de place. En conséquence de quoi, le pardon des péchés n'est plus nécessaire et il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. La foi a une relation toute particulière avec le péché. Souvent, on pense que l'inverse du péché, c'est la morale. L'inverse du péché, c'est la foi. Car là où est la foi, le péché n'est plus beaucoup. Il n'y a plus l'angoisse du châtiment pour ceux qui pêchent après avoir été mis au courant de ce qu'est la vérité. Parce que lorsqu'on adhère à la vérité, alors le péché n'est plus, l'angoisse du jugement disparaît. Pour le dire aussi directement que possible, ayons bien conscience que la foi est l'opposé du péché. Le péché, c'est quand il n'y a pas la foi. Le péché, c'est quand nous ne faisons pas confiance à la vérité qui pourtant nous a été révélée. Lorsque nous ne disons pas oui à une vérité qui nous permet de comprendre enfin ce que vivre veut dire, ce qu'être humain signifie. Lorsque nous savons ce qui est juste, nous savons ce qui est vivable. Nous avons connaissance des menaces qui pèsent sur nous. Il y a une sorte de topographie de la vie qui nous permet de nous orienter. Malgré cela, il se peut que nous décidions de nous orienter tout seul, sans tenir compte de cette topographie. Ça, c'est le péché. Nous ne faisons pas confiance aux vérités qui nous ont été communiquées. Refuser ces vérités contenues dans les textes bibliques, ce serait comme partir sur un cos avec une cartigène ou un 25e et la laisser dans sa poche. Certains ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est vous qui voyez. Le péché, c'est lorsque nous avons à notre disposition les paroles de vie et que nous n'en tenons pas compte. Le péché, c'est lorsque nous avons quelques vérités sur ce qu'est notre identité profonde et que nous n'en tenons pas compte. Le péché n'est pas une question de faute morale. Le péché n'est pas une question de mauvaise manière, d'acte délictueux ou répréhensible, selon les codes de la communauté à laquelle on appartient. Le péché, c'est de ne pas faire confiance à un autre que nous-mêmes qui détient pourtant des paroles de vérité. Pour le dire avec Augustin de Bône, le péché, c'est le fait d'être replié sur soi-même. En latin, l'expression est assez significative. In curvatus, in se. Incurvé en soi, replié sur soi-même, dans une attitude un peu nombriliste. Le péché, nous le savons depuis le livre de la Genèse, au chapitre 4, c'est ce qui est acquis à la porte de Cain, qui se replie sur soi, après qu'il n'a pas connu le même succès que son frère Abel. Le texte hébreu dit que le visage de Cain est tombé, comme tombé sur lui, comme replié sur lui. Il est abattu. Et Cain n'a plus que lui-même comme horizon. Il n'a plus que sa propre vérité comme critère pour penser la vie, pour penser son rapport aux autres, pour penser son avenir. Et ça, c'est péché. Et la conséquence, c'est qu'il va tuer son frère Abel. Parce que sa vie est devenue comme atrophiée par le fait qu'il n'a plus que lui comme critère pour savoir le juste et l'injuste, le vivable et l'invivable, l'humain et le barbare. Le crime est la conséquence du péché. Le crime n'est pas le péché en lui-même. Le crime, la conséquence du péché, et c'est parce que le regard de Cain est retourné sur lui-même de manière narcissique que Cain ne fait plus confiance à la moindre parole qui pourrait le sortir de sa vie. C'est parce que Cain ne fait plus aucune confiance à l'expertise des connaisseurs de la vie qu'il devient l'esclave de son propre point de vue, un point de vue fort limité,
fort inexact. C'est la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse finit en disant que le Christ est l'alpha et l'oméga. Nous ne détenons jamais l'alpha et l'oméga de la vie. Cela nous échappe. Et c'est la raison pour laquelle la foi est nécessaire. La confiance dans la parole proclamée par autrui est nécessaire pour accéder à une vérité plus grande que celle que nous possédions jusque-là. Nous avons besoin de l'autre pour savoir ce qu'est la vie en plénitude. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre propre expérience. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre propre point de vue. Et cela a des conséquences très larges. Bien sûr, cela est vrai sur bien des sujets de notre vie quotidienne, mais pensons même à la question de la foi chrétienne. Nous ne pouvons véritablement savoir ce que Dieu désigne qu'à la condition de sortir de notre entre-soi. Car la vérité, c'est qu'ici, avec toutes les différences que nous avons, nous pensons grosso modo la même chose. Notre foi est assez commune, pour ne pas dire uniforme. Bien sûr qu'il y a des aspérités, bien sûr qu'il y a des variations, et c'est heureux. Mais nous avons aussi besoin de frotter à d'autres que nous-mêmes pour découvrir véritablement ce que Dieu signifie. Le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, au début de sa lettre, écrit que c'est par peur de la mort que nous sommes retenus dans une situation d'esclave. Quand nous avons peur, nous replions sur nous-mêmes, nous faisons du protectionnisme. On remet tout de suite des barrières douanières. Et on en meurt. La peur qui provoque chez nous un repli sur soi nous place immédiatement en prison et nous tue. Il se fait. Quand nous replions sur nous-mêmes, in curvatus in se, alors nous n'avons plus que nous en ligne de mire. C'est quand même pas très glorieux. C'est pas toujours complètement négatif. Mais reconnaissez qu'une communauté comme celle-ci, par exemple, vaut mieux qu'un seul d'entre nous. Cela va de soi. Eh bien, c'est vrai dans tous les domaines de notre existence. Ce n'est pas simplement ensemble on va plus loin, c'est qu'ensemble nous sommes plus humains. Se frotter l'un à l'autre renforce notre humanité. La foi est une confiance dans la parole qui nous est donnée. Cela signifie que la foi est ce qui nous relie à une autre personne, à autre chose que nous-mêmes. Le contraire de la foi, disais-je, c'est le péché, l'absence de relation à l'autre, dont Dieu est la figure ultime. Pensons aux disciples de Jésus. Tant que les disciples de Jésus furent ce que Jésus appelait des oligopistoles. Oligo, petit, pistos, la foi. Des hommes de petite foi, de peu de foi. Tant que ces disciples étaient des gens de peu de foi, ils avaient peur. Et lorsque Jésus meurt, ils n'ont tellement pas foi dans les paroles qu'il a prononcées que la peur les submerge absolument et ils s'enferment, au sens physique du terme, dans une pièce, bien calfeutrée, pour essayer de calmer leur angoisse. Les évangélistes indiquent bien qu'ils s'enferment par peur de la mort, comme c'est le cas dans le début de l'Épître aux Hébreux. L'attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Voilà ce que provoque l'absence de foi. Cela fut leur condition jusqu'à ce qu'ils fassent confiance à une parole de paix proclamée par le ressuscité, qui dut traverser les murs de séparation, toutes ces frontières que l'on voulait étanches, pour leur apporter une parole de paix qui non seulement calme leur peur, mais soit suffisamment crédible pour qu'ils puissent faire foi, confiance
et à partir de ce moment-là, être libéré de cette angoisse mortelle. C'est par la foi dans la parole du Christ ressuscité, que les disciples furent sauvés de l'enfer dans lequel ils s'étaient enfermés, par refus d'une vérité qui pourtant les aurait libérés et ressuscités bien avant. Après avoir constaté que la foi est opposée au péché, j'aimerais maintenant vous rendre attentif au fait que la foi est une démarche scientifique. Et au fond, j'aimerais peut-être m'intéresser et m'adresser tout spécialement aux étudiants en théologie, au cas où je ne sois pas tout à fait convaincu qu'il est indispensable de passer par une faculté, par le processus académique, pour caresser l'espoir de devenir un jour stagiaire en master pro. Parce qu'on verra. Trop souvent, on pense la foi en termes de « j'ai la foi » ou « je n'ai pas la foi ». Ça, il faut oublier tout de suite. Parce que du coup, ça signifierait que la foi est un quelque chose. Un quelque chose que l'on pourrait posséder ou non. Un quelque chose que l'on pourrait transmettre. Et cela nous laisserait penser qu'on peut transmettre la foi à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, à ses paroissiens. Comme si c'était aussi facile que ça. La foi n'est pas un quelque chose. La foi est une démarche scientifique. C'est la raison pour laquelle les études de théologie sont proprement indispensables. C'est pour commencer à sortir de l'illusion que la foi serait, allez, disons, un truc qui nous tombe du ciel et qui métamorphose notre vie en faisant de nous un croyant, élu, sauvé, préservé de tout mal, n'étant plus jamais menacé de trébucher sur quelque obstacle de la vie. Et quand on parle de la foi chrétienne, on a souvent tendance à penser que la foi est le catalogue des dogmes qu'il faudrait prendre au pied de la lettre pour recevoir l'étiquette chrétien. Une fois que vous avez coché toutes les cases, vous avez estampillé chrétien. La foi est confiance. Et comme la confiance que l'on peut avoir envers un proche, un conjoint, un ami, la foi est un processus, une démarche, qui consiste à éprouver la véracité d'une parole comme le fait la démarche scientifique. Comme le font les journalistes qui vont croiser leurs sources, comme vont le faire les magistrats qui vont organiser des entretiens contradictoires, pour ne pas se contenter d'un seul témoignage, d'une seule expression de la vérité, d'une seule réalité. Nous avons besoin de croiser les réalités pour toucher ce que l'on peut appeler le réel, la vie, dans sa véritable essence. La foi n'est pas une certitude fondée sur une adhésion aveugle. Sans foi, ce serait du fanatisme. Ce serait une forme de soumission à la manière des fanatiques qui ne se posent jamais de questions, qui ne s'interrogent jamais sur le bien fondé de leur foi. Et il est heureux que les études de théologie vous bousculent dans tous les sens. C'est pour se débarrasser de cette foi qui serait un quelque chose que l'on possède ou que l'on ne possède pas. Puisque nous avons commencé à faire du latin, continuons un peu avec les réformateurs qui distinguaient la fides quae creditur, la foi qu'il faut croire, Dieu serait trinitaire, Jésus serait un thaumaturge, Marie serait vierge de toute éternité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut distinguer cette foi qu'il faudrait croire pour avoir l'étiquette chrétienne de la fides quoi creditur, la foi qui croit, la foi qui fait confiance, la foi qui adhère, la foi qui met en relation, la foi qui permet de distinguer l'ultime du secondaire. La foi qui fait confiance est une démarche scientifique. Car la confiance a besoin d'être éprouvée. besoin d'être testé.
Et même lorsque on a la foi, il est nécessaire de remettre cela en question et de s'interroger à nouveau pour savoir si cette foi qui nous anime est bien une foi digne de la foi qui retentit dans les textes bibliques ou si cette foi n'est qu'une illusion que nous sommes construits, nous, pauvres pécheurs, qui préférons largement nos idées à la vérité. Nous avons besoin de tester notre foi en vérifiant personnellement et avec d'autres que ce que nous tenons pour vrai l'est effectivement. Il y a dans la littérature ce livre particulièrement connu, La peste d'Albertine. C'est l'occasion pour le prêtre de revisiter un peu son image de Dieu et de la justice de Dieu. Dieu serait-il vraiment celui qui punit le péché de l'humanité par quelques fléaux de type peste, choléra, sida et autres séismes, éruptions volcaniques, réchauffement climatique? Ce prêtre, face à la mort d'un enfant manifestement innocent de tout mal, revisitera sa propre théologie. Sa foi s'en trouvera certainement bouleversée. C'est parce qu'il y a eu l'honnêteté d'une démarche proprement scientifique, qui n'hésite pas à remettre en cause ce que l'on avait jusque-là établi pour acquis. Car rien n'est jamais acquis, si ce n'est ce qui est fini, la mort. Chacun de nous peut accomplir ce travail de réforme permanente. Nous pensons que Dieu est énergie, alors très bien. Cela pourrait être l'occasion de se demander ce que signifie de faire confiance à un Dieu énergie quand on est soi-même pas très en forme, un peu faiblard. C'est ce que peut faire aussi un lecteur de la Bible qui pense que Dieu est impassible. Lisons un peu les récits de la mort de Jésus. Lorsque le voile du temple se déchire de haut en bas, ce qui dans la tradition biblique est proprement le signe du deuil, et qui indique par conséquent que Dieu prend le deuil. Dieu est-il si indifférent que cela s'il prend le deuil à la mort de Jésus? Pour les étudiants en théologie, vous relirez d'orgueil de votre main à ce sujet. Pour bien occuper, c'est dimanche après-midi. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux indique qu'il ne faut pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, il ne cherche pas à sauver l'institution Église de la désertification. Le but, ce n'est pas de remplir tous les bancs de la rue de Maguelone. Il n'aurait rien contre, j'imagine. Mais l'objectif n'est pas le nombre, le plein. L'objectif est que nous ne restions pas seuls, et que nous puissions nous frotter les uns aux autres pour frotter nos convictions les uns contre les autres et nous interroger mutuellement. Cette invitation à s'exhorter mutuellement est une invitation à ne pas être indifférent à ce que l'autre professe et à l'interroger sur le bien fondé de sa foi. Nous avons, je crois, toutes et tous, ces petits moments où nous nous disons: mais comment est-ce qu'on peut croire des trucs pareils? Au lieu de le garder pour soi, in corpus in se, interrogeons l'autre, demandons-lui pourquoi il pense ceci, pourquoi il dit ceci au sujet de Dieu, pourquoi sa foi l'invite à être de telle ou telle manière. Il se pourrait que nous aidions à affiner sa foi, à affiner sa théologie. Le rédacteur de l'Épître aux Hébreux indique que l'assemblée est nécessaire pour se confronter les uns aux autres, pour s'exhorter mutuellement. Confronter ces images de Dieu à d'autres croyants qui sont eux aussi théologiens à leur manière. C'est cela la démarche scientifique. Et ne jamais tenir pour acquis une vérité qu'on a obtenue à un moment donné. Richard Réformateur, Saint-Père Réformandin. On aura fait plus de latin que de grec aujourd'hui. L'Église réformée est toujours à réformer. Toujours. Même après avoir fait valoir ses droits à la retraite. C'est cette démarche scientifique que nous devrions toutes et tous engager inlassablement. C'est à cette condition que nul ne se soumettra à des vérités qui n'en sont plus et que la Bible nomme des idoles. Ces idoles qu'il faudra abattre, ces fausses représentations de Dieu qui n'ont rien à nous apprendre de la vie ou de l'existence, du cours des choses, de la grande mécanique de notre univers. Ces vérités figées, inertes, qui sont déconnectées de la vie. Vous pouvez avoir une angélologie extrêmement développée et savoir uniquement quel est le sexe des anges. L'histoire nous apprend que cela n'empêchera pas Constantinople de tomber. Il y a des vérités plus grandes que cela. La foi est une démarche scientifique qui vérifie que ses résultats sont toujours valides. C'est indispensable. Peut-être est-ce la vocation du protestantisme d'être ce grain de sel qui en permanence va aller frotter le vernis religieux pour vérifier que c'est bien une parole vivante, une parole de vérité qui se cache dans l'institution église, qui se cache dans les solennités religieuses, dans nos liturgies, dans nos prédications, dans nos facultés de théologie. On peut aussi être dans une routine et au bout de 25 ans donner toujours le même cours sur l'Épître aux Hébreux. Quoi, comment ça? On ne travaille pas sur l'Épître aux Hébreux dans la faculté de théologie. Ce serait pas un peu péché, ça? La foi n'a rien à craindre du doute, mais tout à redouter des certitudes. Ces certitudes qui ne seraient plus interrogées, qui ne seraient plus soumises au feu de la critique. À trop faire peur de perdre la foi au prétexte que l'on passe la foi par le prix du doute. Est-ce que franchement, le Dieu de Jésus-Christ a la moindre chose à craindre de notre petit doute? S'il est vraiment le Dieu vivant dont parle la Bible, est-ce que notre doute risque de lui faire courir le moindre danger? Bien au contraire. Le doute est ce qui permettra de dégager l'éternel de toutes nos images parfois un peu infantiles. Je ne me sens pas très bien, Dieu est médecin. Je suis tout petit, Dieu est grand. Je n'ai pas beau chapitre, Dieu est parole. Je me sens minus, Dieu est tout puissant. Peut-être que le doute est vraiment indispensable pour se débarrasser de ce Dieu qui ne serait que le positif du négatif que nous voyons sur nous, ou qui serait la justification à nos fantasmes, notamment en matière de justice. Il m'a fait une queue de poisson sur l'autoroute, mais Dieu le fera griller en enfer. Tout cela, c'est ce que Jésus a inauguré, comme le dit le rédacteur de l'Épître aux Hébreux. Je cite, « Jésus a inauguré une voie nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa personne. » C'est de cette manière que notre foi peut être une confiance placée dans le Dieu de la vie. Et au contraire, s'exonérer d'une démarche scientifique, ce serait tuer Dieu, en faire une idole muette, muette de toute vérité bonne pour notre vie aujourd'hui. C'est ce que dénonce le prophète Ésaïe à tout bout de champ, dans les chapitres 40 à 55. Je terminerai cet examen de la foi, après avoir observé quelle est sa relation au péché, après avoir constaté qu'elle est une démarche scientifique. Je terminerai en reprenant la formule de Concorde des luthériens qui date du XVIe siècle, en constatant que la foi n'est jamais sans amour
ni espérance. La foi n'est jamais seule. Elle n'est pas destinée à être le sujet de belles et longues discussions de salon ou de faculté, comme elle n'a pas vocation à être confinée dans le discours du prédicateur. Je n'ai plus beaucoup de mots d'ailleurs à vous offrir. Elle est prolongée par la confession de l'espérance qui, grâce à la foi, ne fléchit pas de ce texte. La foi, c'est ce qui permet à l'espérance de ne pas fléchir. Et elle nous conduit à veiller les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ajoute le rédacteur de l'Épître aux Hébreux. C'est ce que dira à sa manière le rédacteur de l'Épître de Jacques. Il n'y a pas la foi sans les œuvres. Tu veux me montrer ta foi? Ce n'est pas très compliqué. Il suffit que tu me montres tes œuvres. Car une foi sans les œuvres serait une foi stérile. Elle ne serait que l'adhésion à un Dieu muet, à un Dieu d'idole, à un Dieu qui n'a rien à nous révéler pour comprendre ce qui est idole. Ce serait adhérer à une culture mortelle, à une culture de mort, alors que nous professons le Dieu de la vie, le Dieu vivant. Alors, au terme de ce petit parcours bien insuffisant pour comprendre ce qu'est la foi, il nous faudra encore quelques semestres de validation nous-mêmes. En rappelant que la foi est l'opposé du péché, l'opposé du repli sur soi, nous avons reconnu que la foi est une ouverture à plus grand que soi. Et comme l'écrit le théologien Christophe Chalamet, la confiance qui espère devient une confiance dont l'horizon est cosmique. Il devient impossible de faire confiance à un Dieu qui serait de manière rétrécie simplement pour moi. La foi nous ouvre au monde. La foi, par conséquent, nous rend solidaires des autres par l'amour et solidaires de l'avenir par l'espérance. La foi n'est jamais seule. Elle est en bonne compagnie avec l'amour qui nous rend solidaires des autres et l'espérance qui nous rend solidaires de l'avenir. La foi nous ouvre sur le monde. La foi, à quoi ça sert? La foi, ça sert à ébrécher notre égoïsme naturel. Ça sert à ébrécher nos certitudes qui nous tiennent lieu de confinement étouffant. La foi produit une espérance pour tous. Voilà ce que nous pouvons retenir. C'est un thème finalement très calvinien, avec un Christ qui n'est pas confiné dans la figure historique de Jésus, et par conséquent, un Christ qui n'est pas confiné dans les assemblées ecclésiales chrétiennes. Une espérance pour tous. Voilà le chemin nouveau ouvert par Jésus lui-même. La foi nous sauve une vie étriquée, qui serait déjà une mort avant même notre mort biologique. La foi nous sauve de nous-mêmes. Et la foi, c'est notre oui au caractère universel de la vie. Salutations à tout le monde. Amen.